Vous écoutez, on lit pour vous.
Ça ne devrait même pas être un événement. Un texte d'Isabelle Morin, paru le 27 mars 2026 dans la presse. Isabelle Morin est professeure de sociologie au collégial, autrice du livre « Ma vie de cégep, confidences et réflexions d'une prof » et animatrice du balado « Paroles de Gen Z ». Nous sommes à la semaine de cours 10. La session avance, mes jeunes sont fatigués et stressés par les grosses notes qui arrivent trop vite pour plusieurs. Mais 10 semaines à nous côtoyer, à échanger, à apprendre à comprendre, un peu, le monde qui les entoure, qui nous entoure, ça ouvre un espace de communication sûr. C'est alors que très souvent, des échanges formidables se tiennent, voire des confidences se libèrent, s'expriment avec une certaine légèreté. Est-ce que le corps est un objet de contrôle social ? Voilà la question que je leur pose et qui les ramène à eux, au rapport qu'ils ont à leur propre corps, à celui réel ou fantasmé. Sur une feuille, individuellement, ils notent leurs pensées, leur avis et identifient les arguments pour justifier leur position. Crochet long vers le cadre conceptuel sous-jacent, écoute d'un reportage de RAD sur l'effet Instagram, la retouche comme nouvel idéal de beauté et s'ouvre enfin la discussion. Je constate ainsi, sans grande surprise, la violence qu'imposent les réseaux sociaux. Pas celle d'un coup dans le ventre ou d'une arme pointée sur une tempe, non. Celle insidieuse et moins frappante de la presse sociale à l'uniformisation des corps. Certains vont l'exprimer haut et fort en groupe, dénoncer cette puissance déferlante des images stéréotypées de femmes sexy, juste assez musclées pour préserver leur féminité séduisante et désirable, et d'hommes, ostentatoirement musclés pour témoigner de leur invincibilité, de leur force et de leur domination conquérante. D'autres vont choisir de me l'écrire dans une réflexion sommative. La tentation de prendre des produits illicites pour grossir, ou le doigt dans le fond de la gorge pour contrôler ce corps par peur de grossir, du désir décomplexé de franchir le pas d'une porte d'une clinique médico-esthétique pour s'injecter à 20 ans le bonheur dans la face à coups de piastre, fuir les marques potentielles du temps, fuir les traces de la vie qui passe. Les signes du temps. Et je suis là, devant eux, moi la préménopausée de 52 ans, qui teint ses cheveux, geste banal, normalisé, incrusté dans la vie des femmes depuis si longtemps, qui discute des effets de la pression sociale en prenant conscience qu'elle me frappe aussi. De retour chez moi, les yeux rivés sur mon miroir de la salle de bain, je me regarde. J'interprète mon reflet par le prisme de ma société, de ses valeurs, de ses modèles, de ses normes. Se regarder, s'évaluer n'est jamais un geste neutre. Pourquoi je teins mes cheveux? Pourquoi cacher, camoufler mèche par mèche les signes du temps? Moi à qui l'on dit que je ne fais tellement pas mon âge. Est-ce si grave de faire son âge? J'ai toujours trouvé les hommes aux tempes grisonnantes tellement beaux, sexy, alors pourquoi pas moi? Jamais je ne jugerai les personnes qui font le choix de se teindre, de s'injecter ou de passer sous la précision du bistouri, mais j'ai décidé, à ce moment de ma vie, d'offrir à mes filles, à ma petite-fille, à mes jeunes, à moi-même, le modèle d'une femme qui tente d'assumer ce qu'elle est réellement. La semaine suivante, de retour en classe, je me permets cette confidence. Que malgré mes expériences, ma scolarité, mon assurance et ma confiance, mon côté fort en gueule, je partage avec eux cette pression oppressante et qu'inspirée par eux et par des femmes qui font ce choix, je serai fièrement une boule grise. Petite histoire d'un événement qui ne devrait pas en être un. C'était « Ça ne devrait même pas être un événement », un texte d'Isabelle Morin, paru le 27 mars 2026 dans la presse.
Le Squick sous protection, un texte de Sylvain Charlebois, paru le 12 mars 2026 dans la presse. Le fromage en grains du Québec pourrait bientôt être protégé non seulement par sa fraîcheur, mais aussi par la loi. Mais est-ce vraiment nécessaire? Le Conseil des industriels laitiers du Québec poursuit ses démarches pour faire reconnaître le fromage en grains du Québec comme une appellation réservée. Si la mesure est adoptée, Les règles resteront simples. Le lait doit provenir du Québec, le fromage en grains doit être fabriqué au Québec et les producteurs doivent suivre un protocole de production bien défini. Les fromages en grains produits à l'extérieur de la province ne pourraient tout simplement pas porter l'appellation « fromage en grains du Québec ». Les appellations réservées dans le domaine alimentaire ne sont évidemment pas particulières au Québec. Partout dans le monde, elles servent à protéger des produits étroitement liés à un territoire et à une tradition. L'Europe en a fait un véritable pilier économique. Des systèmes comme les appellations d'origine contrôlée protègent des noms comme Champagne ou Parmigiano Reggiano, garantissant que seuls les produits fabriqués dans des régions précises et selon des méthodes établies peuvent porter ces appellations. Toutefois, ce qui distingue le Québec, c'est qu'il constitue la seule administration du Canada à disposer d'un cadre légal structuré consacré à ces protections. Le système est administré par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, CARTV. Ces désignations définissent la région dans laquelle un produit doit être fabriqué, la manière de le fabriquer et les normes à respecter tout au long du processus. Ce faisant, elles protègent à la fois la réputation et la valeur économique de ces produits régionaux. Le Québec a déjà utilisé ce mécanisme pour protéger des produits comme le veau de Charlevoix et le maïs sucré de Neuville. Le fromage en grains pourrait devenir la prochaine appellation protégée. Mais une telle protection est-elle vraiment nécessaire? L'annonce de cette nouvelle, faite la semaine dernière, ne passe pas très bien dans le « rest of Canada ». Après tout, le fromage en grains est un produit laitier, et dans le système canadien de gestion de l'offre, la qualité et la composition du lait sont remarquablement standardisées à l'échelle du pays. Il faut aussi rappeler que le Québec n'a pas inventé le fromage en grains. Historiquement, les grains existent depuis des milliers d'années comme sous-produits de la fabrication du fromage. Au Canada, ils sont apparus bien avant la poutine. La fromagerie Saint-Albert, dans l'Est ontarien, produit par exemple du fromage en grains depuis 1894, soit des décennies avant que la poutine soit popularisée à Warwick, au Québec, en 1957. Cela dit, il faut reconnaître une chose importante. Le fromage en grains québécois est différent. La différence ne tient pas à la chimie du lait, mais plutôt à la fraîcheur et à la manipulation. Le fromage en grains est devenu célèbre pour son fameux « squick-squick », ce bruit particulier produit lorsque le réseau serré de protéines de caséine formées au début de la fabrication du cheddar frotte contre l'émail des dents. Lorsque les grains sont extrêmement frais, cette structure protéique élastique crée ce son caractéristique. Mais le phénomène demeure éphémère. En quelques heures, le sel, l'acidité et la réfrigération commencent à détendre la matrice protéique. La texture s'assouplit et le squick disparaît. L'industrie laitière québécoise a su transformer cette courte fenêtre de science laitière en véritable signature culinaire. Il en résulte un grain idéal pour la poutine, suffisamment ferme pour faire squick sous la dent, mais assez résilient pour ramollir doucement sous la sauce chaude sans fondre complètement. Cela dit, la volonté de créer une appellation réservée ne relève pas uniquement de la culture, elle relève aussi de l'économie. Lorsqu'un produit obtient une appellation protégée dans le système québécois, le cahier des charges, autrement dit le livre des règles, peut exiger que les matières premières proviennent d'un territoire précis. Si l'appellation « fromage en grains du Québec » impose que le lait soit d'origine québécoise, les transformateurs ne pourraient plus importer du lait ou des protéines laitières moins coûteuses provenant d'ailleurs tout en utilisant cette appellation. À un moment où les producteurs laitiers américains cherchent de plus en plus à écouler leurs protéines laitières sur le marché canadien, ce détail devient important. Il garantit que les grains portant le nom du Québec sont effectivement faits à partir de lait québécois. Autrement dit, l'appellation protège plus qu'une tradition, elle protège aussi un marché. Mais cela soulève un autre enjeu, le commerce interprovincial. Le Canada souffre déjà de barrières commerciales internes lourdes et complexes entre les provinces, particulièrement dans le secteur agroalimentaire. Ajouter des appellations liées strictement à l'origine provinciale risque de renforcer ces barrières plutôt que de les réduire. Est-ce que le fromage en grains du Québec constitue réellement un atout en Ontario ou au Manitoba, alors que d'autres fromageries comme Saint-Albert en Ontario ou Bortwell au Manitoba fabriquent le même produit parfois de 10 % à 20 % moins cher? Pour un pays qui appelle régulièrement à davantage de libre-échange à l'intérieur de ses frontières, la question mérite d'être posée. C'était le SQUIC sous protection, un texte de Sylvain Charlebois, paru le 12 mars 2026 dans La Presse.
Est-ce réel ou fabriqué? L'intelligence artificielle, autre acteur du conflit en Iran. Un texte de l'Agence France-Presse paru le 2 avril 2026 sur le site de Novo. Conflit au Moyen-Orient. Attention à la vague de désinformation et d'intelligence artificielle, images recyclées, séquences de jeux vidéo présentées comme des frappes réelles, visuels de combat générés par l'IA. L'attaque américano-israélienne contre l'Iran a déclenché une guerre des récits parallèles au véritable développement militaire au Moyen-Orient. Guerre des récits, entre guillemets. Citation: Netanyahou est-il réel ou généré par l'intelligence artificielle? Fin de citation. Interroge un titre en ligne en évoquant une vidéo montrant le premier ministre israélien avec soi-disant 6 doigts. La vidéo était authentique. Mais les spéculations se sont rapidement répandues en ligne, affirmant que Benjamin Netanyahou serait mort ou blessé dans une frappe iranienne et qu'Israël cachait la vérité en utilisant un double généré par l'intelligence artificielle. Citation: La dernière fois que j'ai vérifié, les humains n'avaient pas 6 doigts, en principe, sauf pour l'intelligence artificielle. Peut-on lire dans un commentaire sur X qui a récolté près de 5 millions de vues? Citation: Netanyahou n'est-il plus de ce monde? Fin de citation. Des spécialistes en investigation numérique ont rapidement pu expliquer le « doigt en plus ». Un jeu de lumière, une ombre fugace faisant ressembler une partie de sa paume en doigt supplémentaire. Mais la démonstration a été noyée dans le tumulte en ligne. Peu importe que les générateurs d'images avancés, basés sur l'intelligence artificielle, désormais capables de produire en quelques secondes des deepfakes, ces vidéos modifiées ultra-réalistes, ait largement fait disparaître cet ancien bug révélateur des doigts en trop. Comment prouver que ce qui est réel est bien réel quand la frontière entre réalité et fabrication s'est à ce point estompée dans le brouillard du conflit en Iran et que même les images authentiques sont désormais mises en doute? Quelques jours après la diffusion de cette première vidéo, Benjamin Netanyahou en a publié une deuxième, sorte de preuve de vie tournée dans un café. On le voit y lever les mains, comme pour mettre les sceptiques au défi de compter ses doigts. Mais au lieu d'apaiser les spéculations, cela a alimenté une nouvelle vague de théories infondées. Encore de l'IA, a déploré une publication virale sur Threads, s'interrogeant sur le fait que la tasse de café remplie à rebord ne se renversait pas malgré ses mouvements de main et restait pleine après une grande gorgée. La suspicion a perduré même après que M. Netanyahou a publié une troisième vidéo, cette fois en compagnie de l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee. Certains détectives en ligne ont zoomé sur les oreilles de M. Netanyahou affirmant que leur forme et leur taille ne correspondaient pas aux images de lui diffusées dans le passé. Ragot, entre guillemets. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, le 28 février, le réseau mondial de l'agence France-Presse a produit plus de 500 articles de fact-checking révélant de fausses informations sur ce conflit, dont 20 à 25% créés à l'aide de l'intelligence artificielle, un niveau jamais atteint durant une telle crise. L'invasion de l'Ukraine par la Russie ou la guerre Israël-Gaza ont déclenché des vagues d'images, de vidéos et d'audio générées par l'IA.ac. Ce qui distingue ce conflit, c'est l'ampleur et le réalisme des contenus artificiels produits par des outils avancés, peu coûteux, accessibles et capables d'éliminer bon nombre des anciens signes de manipulation, expliquent des chercheurs. Les plateformes technologiques sont saturées de ce que beaucoup appellent la bouillie numérique. Citation, « Je pense que nous devons tous commencer à traiter les photos, les vidéos et l'audio sur le même plan que des ragots. » Fin de citation, conclut Thomas Nowotny, directeur du groupe de recherche sur l'IA à l'Université de Sussex au Royaume-Uni. Ces images générées par l'intelligence artificielle ont atteint un tel niveau de ressemblance avec le réel qu'elles en viennent à éclipser les photos et vidéos authentiques, générant une crise de confiance. Désormais, citation, le problème de la désinformation, en général, ce n'est pas tant que les gens y croient, explique Constance de Saint-Laurent, professeure à l'Université de Maynooth en Irlande. Citation, le problème, c'est qu'ils voient des informations réelles et qu'ils n'y font plus confiance. Fin de citation. Nuisible, entre guillemets. Le volume de faux généré par l'intelligence artificielle excède largement les capacités de vérification des professionnels du fact-checking. Des rédactions solides ne sont pas à l'abri d'être bernées. Le magazine allemand Der Spiegel a récemment annoncé avoir retiré plusieurs images liées à l'Iran après avoir déterminé qu'elles étaient probablement générées par l'intelligence artificielle. Et même quand il a été démontré qu'il s'agissait de fabrication, elles ressurgissent régulièrement, un schéma que certains chercheurs qualifient de « désinformation zombie ». Les algorithmes mettent en avant les contenus en fonction de l'engagement, partage, commentaire, mention, j'aime, souvent stimulés par le sensationnalisme, l'indignation et la désinformation. Les plateformes de réseaux sociaux, citation, agissent comme des éditeurs à travers ce qu'elles décident de montrer, principalement via leur fil d'actualité. Et très souvent, cela inclut des contenus nuisibles et de la désinformation. Note Constance de Saint-Laurent, fin de citation. Santé mentale chez les jeunes, des experts se penchent sur la sécurité de l'intelligence artificielle. L'Institut québécois d'intelligence artificielle, MILA, organise un événement national afin de documenter, tester et concevoir des technologies qui vise à réduire les risques de préjudice en santé mentale lorsque l'intelligence artificielle est impliquée. Les incitations financières accélèrent le phénomène. La plupart des plateformes permettent aux créateurs de s'enrichir en fonction de l'engagement, encourageant des influenceurs à diffuser des contenus trompeurs ou entièrement fabriqués pour obtenir des clics, de la visibilité et de l'argent. Selon l'Institut pour le dialogue stratégique basé à Londres, un réseau de comptes X d'Elon Musk publiant des contenus IA sur le conflit en Iran, États-Unis-Israël, a cumulé plus d'un milliard de vues depuis le début du conflit. Autre exemple viral, un compte X a publié une vidéo générée par l'intelligence artificielle semblant montrer la tour Burj Khalifa de Dubaï s'effondrer dans un nuage de poussière. Guillemets, 10 millions de vues et aucune note de communauté. Fin des guillemets, l'outil de modération communautaire a commenté 20 heures après la publication de ce clip, l'analyste de la guerre de l'information, Tal Hagen. Quand une note de communauté, Community Note, système de vérification participatif dont l'efficacité est régulièrement mise en doute par les chercheurs, a été ajoutée, la vidéo avait déjà été visionnée plus de 12 millions de fois. Les contenus modifiés ont continué à proliférer sur X, même après que la plateforme a menacé de sanctionner les créateurs publiant des vidéos de guerre générées par l'intelligence artificielle sans le mentionner. L'ego, entre guillemets. Les mêmes générés par l'intelligence artificielle qui banalisent les conflits tout en diffusant de la désinformation occupent de plus en plus d'espace, un phénomène baptisé par l'Institut pour le dialogue stratégique de l'égoïfication de la propagande de guerre. Un faux film iranien généré par l'intelligence artificielle avec des personnages de l'ego est devenu viral dès la première semaine du conflit, accusant Donald Trump d'avoir attaqué Téhéran pour détourner l'attention de son rôle supposé dans le scandale Jeffrey Epstein. Des vidéos mêmes, ultra réalistes, ont été utilisées pour représenter de fictives victoires militaires iraniennes, des dirigeants mondiaux dans des situations absurdes ou le stratégique détroit d'Hormuz réimaginé en barrière de péage caricaturale. Le président américain a averti que l'intelligence artificielle était, citation, une arme de désinformation que l'Iran utilise très bien dans ce conflit. Les bâtiments et les navires qu'on voit en flammes ne le sont pas. C'est de la fake news générée par l'intelligence artificielle. Fin de citation, a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. Pourtant, lui-même a partagé des images et vidéos générées par l'IA pour se mettre en scène en roi ou en Superman, dépeindre ses opposants criminels ou utiliser des mêmes IA pour alimenter théories du complot et récits mensongers. Citation. Nous estimons que les plateformes technologiques n'en font actuellement pas assez pour aider les utilisateurs à déterminer si un contenu est généré par l'IA ou authentique. Fin de citation, a estimé en mars le Conseil de surveillance de Meta, l'organe créé par Facebook pour examiner les décisions de modération de contenu. Citation, les contenus faux peuvent être nuisibles en incitant à davantage de violence et en alimentant encore plus de conflits, a-t-il ajouté, fin de citation. L'agence France Presse travaille en 26 langues avec le programme de fact-checking de Facebook, notamment en Asie, en Amérique latine et dans l'Union européenne. Meta a mis fin à son programme de fact-checking, tiers aux États-Unis, l'an dernier. Son directeur général, Mark Zuckerberg, affirmant qu'il avait entraîné, guillemets, trop de censure, fin des guillemets, une affirmation rejetée par les partisans du programme. Comme alternative, M. Zuckerberg a indiqué que les plateformes de Meta, Facebook et Instagram utiliseraient le modèle des notes de communauté, une décision que les critiques jugent susceptible d'affaiblir encore les garde-fous contre la désinformation. Guillemets, bien réel. Les outils de détection d'intelligence artificielle étaient censés dissiper le brouillard de la guerre de l'information. Au lieu de cela, ils le rendent parfois plus opaque. Dans le cas de Benjamin Netanyahu, des complotistes ont brandi un outil de détection d'IA qui a, à tort, qualifié sa vidéo tournée dans un café à 96,9% généré par l'IA. Fin de citation. D'autres outils sont arrivés à la conclusion inverse. Le problème ne se limite pas aux vidéos. Les réseaux sociaux regorgent d'images satellites fabriquées ou cartes thermiques manipulées et employés pour semer le doute sur des preuves du conflit, selon les chercheurs. Les récits mensongers ne se contentent plus de fabriquer du contenu, mais qualifient aussi de faux des reportages bien réels, souligne NewsGuard. Citation : Quand tout peut être faux, il devient facile de croire que n'importe quoi l'est, décrypte Sophia Rubinson, membre de cet observatoire de la désinformation. Des utilisateurs des réseaux sociaux ont à tort accusé de grands médias, comme le New York Times, d'avoir publié des images du conflit généré par l'intelligence artificielle, dont l'une montrait une foule immense à Téhéran célébrant la nomination du nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei. Lorsque des informations véridiques, mais embarrassantes, sont balayées comme étant générées par l'IA, les chercheurs appellent cela, guillemets, le dividende du menteur. Fin de citation. Dans ces conditions, citation, il devient plus facile de nier les atrocités. Fin de citation a mis en garde un rapport de Tech Policy Press. Citation, c'est ce que veulent les malveillants, que les gens pensent que tout peut être truqué afin qu'ils ne puissent avoir confiance en rien, insiste Nar Covington, directrice principale des contenus éducatifs au News Literacy Project. Désormais, de fausses images, de faits bien réels, viennent encore davantage polluer le paysage informationnel. Après une frappe meurtrière contre une école de la ville de Minab le 28 février, un compte officiel iranien sur X a publié une photo montrant un sac à dos d'enfants maculés de sang et de poussière. L'agence France-Presse a établi qu'il était très probable que l'image ait été générée par l'intelligence artificielle. Mais peu d'internautes ont semblé troublés par l'utilisation d'une image fabriquée pour illustrer la mort de vrais écoliers, signe d'une résignation croissante à une ère où la question « est-ce réel ?» est devenue de plus en plus difficile à trancher. Citation, probablement modifié par l'IA, mais le sens est réel. Fin de citation, a ainsi écrit un utilisateur de Reddit. C'était « Est-ce réel ou fabriqué ?» l'IA, autre acteur du conflit en Iran. Un texte de l'agence France-Presse paru le 2 avril 2026 sur le site de Novo.